envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Alors on la protège aujourd'hui, on l'a mise au frais ici au studio. C'est Claire qui est avec son invité. Bonjour Claire.
Mais bonjour Florian, bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'air de jeu qui va vous faire voyager jusqu'à midi au Laos. Et oui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Legrand qui va nous parler de son expérience vécue dans ce pays asiatique. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour, Sabaydi Claire, Kropchai, Ti, Chosong, Okaz, Hakroy, Ma, Pasopkan, Tugyan, Koy, Hen, Yu, Patel, Lao. Merci Claire de m'accueillir dans le studio aujourd'hui, de me donner la chance de partager un petit peu mon expérience et puis mes anecdotes avec les auditeurs. Et puis j'espère que ça pourra leur donner l'envie de voyager comme j'ai pu le faire ces 7 dernières années.
Et voilà, donc on l'a aussi.
J'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais c'est pas grave.
Mais vous parlez pas le laotien, Florian.
Non, je comprends quelques mots de thaïlandais maintenant, mais pas de laotien.
Et justement, on va pouvoir déguster de la cuisine laotienne. Alors, si vous nous suivez en vidéo, eh bien, vous allez pouvoir découvrir les plats que nous a confectionnés notre invité Jean-Baptiste Legrand. Vous aurez bien sûr l'occasion de jouer avec nous pour gagner des cartes cadeaux. On vous propose également des nouveaux jeux. Donc, de quoi passer une bonne matinée. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec vous, Jean-Baptiste. Bon, vous allez continuer de parler en français, hein, parce que si vous faites encore en laotien, on ne va rien comprendre, nous.
Très bien.
Vous avez fait vos classes en tant que cuisinier. Vous avez un bac et un CAP de cuisine. Vous avez étudié à Nice. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier ?
Alors, j'étais en fin d'études au collège à Nice et puis on nous a demandé si on voulait suivre la formation classique d'études ou bien si on voulait aller essayer quelques métiers. J'ai essayé la boulangerie, j'ai essayé la cuisine, ça m'a plu et puis je me suis lancé dans la cuisine.
Est-ce que vous avez pu travailler dans des hôtels du côté de Nice ?
Alors, j'ai travaillé dans une brasserie traditionnelle sur le port de Nice. Et puis, j'ai aussi travaillé dans un même temps, après mes cours, dans un restaurant qui s'appelait l'Aphrodite, un restaurant d'un chef étoilé en cuisine moléculaire. Mais malheureusement, non, pas d'hôtel.
Ça doit être assez impressionnant, la cuisine moléculaire. Est-ce que c'est encore toujours d'actualité ?
C'est toujours d'actualité. Je pense que les gens sont intéressés de voir ce côté scientifique un petit peu derrière la cuisine. Ce n'est pas une cuisine que l'on va manger tous les jours chez soi, mais c'est un petit peu un côté spectacle de la cuisine. Je pense que ça intéresse quand même les gens d'y goûter quand même une fois, oui.
Mais ça, ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Il faut vraiment aller dans les restaurants spécialisés.
Oui, c'est vrai. C'est quand même technique. C'est la science. Pas tout le monde ne peut le faire. On a toute une formation derrière.
Et les spécialités du sud de la France, puisque hein, vous avez étudié à Nice, est-ce que vous aimez aussi faire ces spécialités du sud ?
J'ai été baigné dedans pendant toute ma formation. Alors c'est vrai que c'est une cuisine qui m'influence beaucoup, même quand je pars en Asie, que je cuisine ou à la maison. On a toutes ces herbes, toutes ces saveurs qui reviennent constamment dans nos recettes. Et c'est une cuisine oui, que j'aime beaucoup travailler. C'est une cuisine qui nous rappelle un peu le soleil et puis qui me rappelle un peu chez moi.
Voilà, parce que là maintenant vous êtes au Locle, hein, vous avez passé de 2014 à 2022 au Laos, hein, enfin en Asie, ouais. On verra que vous avez aussi passé par d'autres pays asiatiques, mais vous avez fait la majeure partie de votre vie en tant que cuisinier au Laos. Et puis là vous êtes au Locle maintenant et vous travaillez avec votre maman.
Il a passé où votre accent du sud de la France ?
On
l'a perdu en route là quelque part.
Non, j'ai fait un petit peu un mix pendant mes voyages. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, où j'ai pris un petit peu avec l'espagnol. Puis après, j'ai fini à Nice, dans le sud-est, où j'ai pris un petit peu d'italien.
Il reste encore un petit fond, là.
Et puis après, je suis parti en Asie, où j'ai parlé anglais, laotien. Et puis, j'ai parlé avec beaucoup de touristes. Et le problème avec moi, c'est que je fais éponge. Quand je parle avec n'importe quelle nationalité, je vais...
Prenez vite l'accent.
Ouais. Ouais, je vais m'adapter. Au final, j'ai fait un petit peu un...
Un mix de tout.
Ouais. Ouais,
du coup, 2 semaines dans le sud de la France, et ça y est, il repart le France.
Exactement.
Alors, premier jeu.
L'air de jeu, le défi.
Le défi, ce sont des photos que vous allez nous envoyer jusqu'à midi moins le quart. Ensuite, Jean-Baptiste va choisir la photo coup de cœur et on vous appelle et vous allez passer en direct à l'antenne pour remporter une carte cadeau lundi de 20 francs. Il faudrait un thème hein, pour cela. Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème pour notre défi photo ?
Vu que c'est une émission quand même axée sur les voyages, j'aurais pensé peut-être à votre photo coup de cœur de votre voyage à vous. Nous choisirons la photo la plus jolie, je ne sais pas.
La plus originale.
Ouais, la plus originale.
Mais alors, basée plutôt sur le culinaire ou les paysages ?
Les deux. C'est vraiment leur photo coup de cœur de leur voyage. Ça va nous permettre à nous de voyager dans le studio.
C'est une très bonne idée.
De partager avec les auditeurs sur cette photo.
Et vous nous envoyez ces photos au 079
809
20 20. C'est aussi simple que ça.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On parle du Laos ce matin.
Oui, et puis j'ai appris quand même à parler un peu le lao, hein, qui est la langue officielle du pays. Bon, je sais juste dire Sabaidi, c'est juste
oui,
ça veut dire bonjour.
C'est pas très loin du thaïlandais, hein, finalement.
Non.
Parce qu'on dit, en Thaïlande, on dit Sobadikap pour le monsieur, hein, Sobadika pour la femme. C'est pas très loin la consonance.
Non, mais comme je disais à Claire ce matin, c'est vrai que c'est des pays voisins et ils ont partagé quand même le même passé. Et on a une langue un petit peu similaire.
Est-ce qu'on peut un petit peu parler du Laos, enfin le décrire géographiquement ?
Alors le Laos, c'est un pays d'Asie du Sud-Est qui est entouré de 5 autres pays. Vous avez la Chine au nord, vous avez dans le nord-ouest la Birmanie, à l'ouest la Thaïlande, au sud le Cambodge et à l'est le Vietnam. C'est un pays un petit peu refermé sur lui-même qui vient de s'ouvrir il y a seulement quelques années, en 1990. Et donc c'est un pays en pleine ouverture sur le tourisme.
Et comment un Français comme vous a été reçu au début que vous êtes allé là-bas au Laos ?
Les gens qui y vivent, ils sont vraiment très accueillants, très sympathiques. Et c'est vraiment un pays où on peut voyager et être trouvé bien accueilli.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de partir dans l'un des pays asiatiques ?
Alors j'étais en cuisine à Nice. Le soir, je regardais beaucoup de reportages sur les nourritures étrangères, un petit peu sur les cultures étrangères. J'ai pas trouvé un petit peu ma place dans la cuisine américaine, australienne, etc. Mais j'ai trouvé pas mal d'intérêt à aller découvrir la cuisine asiatique, l'Asie. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi la Thaïlande. Et puis, je voulais aller m'installer en Thaïlande, vivre dans ma toile de tente, aller chez les habitants, découvrir vraiment leurs coutumes, leurs traditions, vivre comme eux.
Et ça n'a pas toujours été facile.
Non, alors je suis arrivé en Thaïlande, je me suis aperçu que c'était quand même un pays développé, où il fallait de l'argent. Et vu que je suis parti avec seulement 1000 euros, je me suis vite retrouvé à court d'argent et j'ai dû du coup changer mes plans. Il a fallu trouver un travail et c'est de cette aventure-là, de me retrouver sans argent, que je me suis dit, allez, je vais aller visiter le Laos une petite semaine, ensuite je reviendrai en Thaïlande pour trouver un travail. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers le Laos. L'arrivée sur le pays était quand même incroyable en soi. J'arrive à la frontière laotienne, par le nord du pays, je traverse le fleuve du Mékong par un petit pont, et vous aviez en bas tous les bateaux, taxis. Le Laos, c'est un pays qui tourne autour de son fleuve et de ses montagnes. Et vous avez tous ces bateaux taxis qui attendent pour aller chercher les gens dans chaque village. Beaucoup de villages qui n'ont pas accès aux routes et qui se déplacent par ce bateau.
Voilà, là on vous voit, hein, pour les gens qui nous suivent en vidéo.
Oui, voilà. Alors j'ai descendu cette petite route, j'ai pris mon bateau qui m'a amené à Luang Prabang. Pendant 2 jours et une nuit, on a fait la traversée. Et c'était mon premier contact avec le Laos. Un voyage très tranquille, rempli de Laotiens, beaucoup d'ethnies différentes qui se partagent le bateau, qui se partagent l'espace. On nous invite à manger, on nous invite à boire un coup avec eux. Et ça a été une arrivée vraiment... c'était quelque chose.
Envie de prendre l'air ? Jusqu'à midi, c'est l'heure de jeu.
Laurence qui habite à La Chaux-de-Fonds. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes déjà partie en vacances ou c'est pour dans quelques temps?
Oui, je suis allée 2-3 jours à Milan.
Ah, joli, hein?
Oui, trop bien.
Ouais, ouais.
Vous avez vu El Domo?
Bah oui.
Vous avez profité des petits spritz sur la place?
Exactement.
À consommer avec modération.
Si on vous offre un voyage, ça serait quoi votre destination de rêve?
Alors, soit les États-Unis, soit l'Asie.
Comme notre invité.
Elle est partagée entre les hamburgers frites et puis le sticky rice.
Et il y aurait un pays d'Asie qui vous ferait plus envie qu'un autre?
Bah, vous parlez du Laos, je vais dire ça, mais c'est vrai que le Vietnam, ça m'attire pas mal.
Vous avez aussi passé au Vietnam?
Ouais, j'y suis passé quelques jours.
La baie Da Nang, ça doit être magnifique.
Bien sûr, ça c'est très connu, c'est très touristique aussi. On va jouer avec vous. C'est une première fois que vous jouez sur RTN?
Exactement.
Alors, je croise les doigts pour vous. En plus, c'est un nouveau jeu que l'on vous propose le dimanche matin dans l'air de jeu, qui s'intitule Kezako.
L'air de jeu, le Kezako.
Alors, je vais vous donner des mots et je vous donne trois définitions. Il faudra me donner la bonne définition et en tout cas m'en donner deux pour gagner la carte cadeau qui est en jeu, à savoir deux entrées pour les grottes de Valorbe. Est-ce que vous êtes prêts? Car attention, on a un chrono et vous avez 30 secondes. Vous êtes prête?
Oui.
Que sont les berlinguettes? Des œufs farcis d'une pâte d'anchois, des petits bonbons aux fruits, une variété de tomates.
Les berlinguettes?
Oui. Vite. Qu'est-ce qu'un fesse-mathieu? Un tabouret à un pied, le nom d'un insecte, une personne avare. Vite.
Un insecte.
Qu'est-ce que la monnaie du pape? C'est une sorte de bague, c'est une plante ou c'est une sorte de calice pour la messe?
Une plante.
Eh ben, bravo. Ouh.
Alors, sauvé sur le gong.
Effectivement, les berlinguettes, ce sont des spécialités provençales. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà préparé. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez déjà mangé des berlingotes? Je crois que c'est du côté d'Avignon. Hein.
Oui, c'est une spécialité avignonnaise et j'en ai jamais mangé.
Alors, ce sont des œufs durs farcis d'une pâte d'anchois. Le fesse-mathieu, vous m'avez dit que c'était un insecte. Hein?
Oui.
Alors non, c'est une personne qui est avare. C'est un genre de grippe-sous. Alors comme ça, si une fois vous rencontrez...
Ça peut être un insecte, un grippe-sous. Hein.
Si une fois vous rencontrez quelqu'un qui est un peu avare, vous lui direz « Ah, mais dis donc, t'as un sacré fesse-mathieu. »
J'ai connu un nouveau mot comme ça.
Voilà. Et puis la monnaie du pape, alors effectivement, c'est une plante. Donc ça vous fait deux bonnes réponses, Laurence. Vous remportez donc cette carte. Vous allez pouvoir admirer les magnifiques grottes de Valorbe. Et on vous souhaite une bonne suite de dimanche. Merci d'avoir joué avec nous. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'est aussi une destination de rêve. Hein. Vous verrez, c'est chouette.
Oui, mais c'est pas le Vietnam.
Non, mais bon, vous verrez, il fait frais, il fait très très bien, puis c'est très bon à visiter.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On parle du Laos ce matin en compagnie de Jean-Baptiste Legrand, qui est un grand voyageur, hein, puisque vous aimez les voyages et le côté un petit peu pour apprendre quelque chose. Et au Laos, ben, vous avez appris à une autre sorte de cuisine et c'est là que vous avez pu vraiment vous intéresser aux épices, quelque chose qui vous tient à cœur.
Oui, alors ça a pris quand même un petit peu de temps. Avant de remettre les pieds dans une cuisine, j'ai dû quand même m'adapter à la façon de travailler, à la façon de discuter avec les locaux. C'est vraiment une mentalité différente. Je suis arrivé, j'ai eu quelques soucis en arrivant là-bas, puisque je suis arrivé avec mon bagage de cuisinier européen, d'armée, de hiérarchie, de cuisine, et ça n'a pas passé tout de suite. Alors, j'ai dû changer ma façon de travailler, de voir les choses.
C'est quoi la différence par rapport à l'Europe, la façon de travailler là-bas?
Alors là-bas, tout le monde est au même piédestal. Il n'y a pas de personne plus importante qu'une autre, il n'y a pas de position plus importante qu'une autre. C'est vraiment quelque chose de nouveau là-bas, d'avoir un chef de département, un manager, un general manager. C'est vraiment quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Et ces positions sont d'ailleurs prises par les Européens qui veulent prendre les responsabilités puis qui veulent enseigner leur savoir aux locaux. C'est avec le temps que j'ai remis les pieds en cuisine. Par contre, en attendant, c'est vrai que j'ai quand même vécu chez un Lao qui m'a accueilli dès mon arrivée. J'ai vécu avec sa famille et il m'a partagé tout son savoir sur la cuisine. La personne que j'ai rencontrée avait 3 restaurants. On a fait un échange de services. Lui me donnait le logement, moi je travaillais pour lui, pour gérer ces 3 restaurants. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis un pied à terre là-bas. Je travaillais encore en salle à ce moment-là, dans le restaurant, mais pas en cuisine.
Quel système est mieux ? Le système européen ou le système Laos style, si on peut dire ça comme ça, en cuisine ?
Alors, ça dépend de vos attentes. Si vous voulez vivre la vie du côté sabai, comme ils disent là-bas, tout va bien, pas de soucis, pas de problème. Là-bas, c'est quand même bien.
C'est moins stressant.
C'est une qualité de vie voilà, qui n'est pas du tout stressante. Comme ils disent, vous vivez au rythme du fleuve, tout tranquillement, tout doucement, sans pression. Par contre, la pression, c'est les compagnies internationales qui l'ont. Les hôtels, les grands restaurants, celles qui veulent vraiment un standing. Là, il y a quand même pas mal de conflits et de difficultés pour former les Laotiens qui, eux, ne veulent pas de difficultés.
Alors, j'aimerais que vous nous présentiez ce que vous avez préparé hier soir. Je vais essayer de prendre... Voilà, hop là.
Vous ne mangez pas tout. Hein.
Non, moi, je ne vais pas tout manger.
Votre gourmandise.
Je vais,
c'est
voilà,
pas des baguettes que vous tenez dans la main.
Oui, ça, c'est de la citronnelle, hein, c'est ça.
Oui, c'est un bâton de citronnelle.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette que je montre à la caméra ?
Alors ça, c'est vraiment un plat typique de la région asiatique en général. Chaque pays a sa recette de salade de papaye. Donc ça, c'est une salade de papaye à la Luang Prabangwa.
Ça pique un peu.
Voilà, de
ça,
ma
par
ville.
Contre, en Thaïlande, c'est très, 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 très épicé.
Mais ça pique
en
un petit
Thaïlande,
peu quand même. Hein.
Ils ont une recette différente. Au Laos, chaque village, chaque région va avoir un petit peu d'ingrédients qui diffèrent. Alors, c'est de la papaye, la carotte, des tomates cerises, des aubergines. Vous avez du piment, vous avez de l'ail, vous avez de la sauce poisson, du poisson fermenté.
Et puis dans les feuilles de banane.
Alors là, je vous ai cuisiné, on appelle ça le mokpa. Mok, c'est cuit dans la feuille de banane à l'étouffée, vapeur. Et puis pa, c'est le poisson. Donc c'est du riz gluant qui a été mis dans l'eau pendant quelques heures, qu'on a ensuite broyé au mortier avec un petit peu d'ail, du piment, de la citronnelle, du galanga, qui sont les ingrédients de base, galanga, citronnelle, kaffir, la bergamote. Donc là, vous avez aussi de l'aneth, des petits oignons cébettes et le poisson.
Là, c'est aussi un plat, c'est une vieille recette royale. Il s'agit du olam et ça, c'est une spécialité de la ville où vous étiez, à Luang Prabang, c'est ça ?
Oui.
Alors le olam, prenez le plat et essayez de le montrer.
Le olam, c'est un plat qui était cuisiné pour le roi. La ville où je m'étais installé, Luang Prabang, c'est une ville classée UNESCO. C'est l'ancienne capitale du Laos et c'est la ville où vivait la famille royale, où ils avaient les plus grands chefs, les plus grands cuisiniers qui devaient cuisiner une recette différente par jour, obligatoire pour la famille royale. Ce orlam, c'est vraiment une recette traditionnelle, classique de la ville de Luang Prabang. Malheureusement, je n'ai pas pu vous mettre du safran à l'intérieur. C'est ce petit morceau de bois que vous voyez. C'est une liane qui monte très haut dans les arbres, qu'il coupe en tranches et que l'on va rajouter dans cette soupe et qui va donner un côté épicé. Et on va pouvoir y manger l'écorce, ronger le tour du bout de bois.
Moi, je trouve que c'est déjà très bon ce qu'on a devant nous.
La viande, c'est du bœuf ?
Alors là, oui, c'était du bœuf séché.
Et puis l'autre partie qu'on voit ?
Et après, vous avez au-dessus, c'est une peau de porc qui a été séchée et ensuite frite.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et Claire qui déguste du sticky rice, du riz gluant, comme on appelle ça.
Mm-hmm, c'est avec bon. Le mokpa, donc du poisson qui a été cuit à l'étuvée, c'est ça hein,
oui.
Dans une feuille de banane, mais c'est juste sublime. Est-ce que d'avoir voyagé comme ça à travers le Laos et dans d'autres pays asiatiques, vous avez des anecdotes qui vous viennent à l'esprit ?
J'ai passé quand même beaucoup d'années au Laos et j'ai appris à parler laotien couramment. Et j'aimais bien arriver dans des endroits... m'asseoir avec des gens, partager la nourriture, les boissons.
Rien dire, écouter.
Voilà, rien dire, écouter un petit peu. Et j'avais souvent un ami qui savait que je parlais, et puis il disait rien. À la fin de la conversation, puis je leur répondais en lao. Alors il sursautait toujours, il disait « Oh punaise, mais tu parles là aussi hein. !»
Heureusement qu'on n'a pas dit de bêtises sur lui.
Et puis vous avez même aussi...
Des fois, il y avait des bêtises.
Vous avez aussi même une autre anecdote où vous avez rencontré des candidats polonais de la version polonaise de la célèbre émission télé Pékin Express.
Oui, c'est vrai. Alors, je finissais une croisière. Je travaillais sur un bateau sur le Mekong. Je finissais une croisière, mon service. Je rentrais à l'hôtel et puis je croise quelque chose de familier. Des sacs rouges, des sacs bleus en tandem. Je me dis, tiens, je connais ça. Je regarde, j'y paye attention. Et puis, c'était les équipes de Asia Express. Donc, c'est le cousin de Pékin Express en Pologne. Et puis je passe devant eux, je m'arrête en moto, puis je les regarde. Je rentre à l'hôtel et je dis à mon patron, je lui dis, tiens, j'ai croisé les équipes de Pékin Express. Il me dit, bah, tu leur as pas proposé de rester chez toi ce soir? Je lui dis, bah, c'est vrai, tiens. Et alors, je suis allé les retrouver à la station de bus. C'était l'heure pour eux de chercher un endroit où dormir. Donc du coup, on a dû jouer la scène où j'allais les voir pour leur proposer un logement. Puis on a marché jusque chez moi, je leur ai laissé mon appartement. Là, on a partagé un dîner ensemble, un souper. Et puis ils ont passé la nuit chez moi, j'ai été dormir ailleurs. Et ils sont repartis le lendemain.
Du coup, maintenant, ils parlent couramment le polonais.
Et maintenant, j'ai l'accent polonais.
Voilà, donc vous avez passé sur la télévision polonaise.
Ouais.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Le Laos, hein, qui est à l'honneur. Notre invité, c'est Jean-Baptiste Legrand, qui a eu l'occasion d'y vivre quelques années en exerçant son métier de cuisinier. Et puis là, on va vous voir sur avec des gens dans une tenue assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette tenue?
Oui, alors ce jour-là, c'était une cérémonie, c'était une parade organisée à l'occasion d'un défilé de l'UNESCO, un défilé anniversaire. Donc, chaque année, le long de la route principale de Luang Prabang, c'est une petite route de quoi une centaine de mètres, défilent peut-être 1500 personnes, 2000 personnes en tenue traditionnelle d'ethnie. Tout le monde représente les différentes ethnies du Laos. On a toute l'histoire qui est représentée. On a les ancêtres qui sont représentés. On a un petit peu les guerriers magiciens du Laos qui défilent avec leurs sabres en se coupant les bras, enfin sans s'en tailler, mais en faisant des shows de magie. Et là, on m'a proposé de revêtir la tenue traditionnelle. Donc, c'est celle qui est utilisée pour, en général, les mariages, les cérémonies en tout genre. Ouais.
Et alors, justement, le Laos a été colonisé par la France hein, en 1800 et quelques. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de cette colonisation française?
Alors, cette ville qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a été aussi inscrite pour protéger cette architecture française qui est présente dans toute la ville de Luang Prabang, mais aussi un petit peu partout au Laos. Les Français ont été très présents. Et puis, ils ont quand même laissé beaucoup de vestiges, de souvenirs, voilà, notamment dans l'architecture, puis aussi dans la nourriture.
Quoi, par exemple, dans la nourriture?
Alors, c'est marrant. On a un plat qui est très connu dans la région, l'ancienne région indochinoise, qui est le pho. Donc, cette soupe de nouilles, au Vietnam, c'est le pho, si Laurence nous écoute, qui veut partir au Vietnam. En Thaïlande aussi, on a ces soupes. Alors en fait, le pho, c'est ce que les Français cuisinaient. C'était les pot-au-feu à l'époque. Donc pendant leur journée, ils avaient leur grosse marmite qui restait à cuire, mijoter longuement. Et Ils y mettaient leurs pommes de terre, les poulets, les légumes, etc. C'est quelque chose qui est resté, cette soupe. Par contre, ils y ont mis, eux, leur nouille de riz qu'ils confectionnent là-bas en Asie. Et donc,
les ingrédients de chez eux.
Voilà, des Français.
Et puis, il y a la baguette aussi.
Il y a la baguette aussi qui est très répandue. C'est un petit peu le casse-croûte pour tous les jeunes étudiants. Vous avez souvent devant les écoles cette petite baguette. Vous avez encore des vieux fourneaux, des Laotiens qui font leur propre pain. Quelque chose de très répandu aussi de manger du pain. La baguette. Elle s'appelle baguette en plus.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et on revient dans l'air de jeu, effectivement, Claire, avec un candidat, c'est Michael.
Bonjour Michael, comment allez-vous?
Bonjour.
Est-ce que vous êtes déjà parti en vacances?
Oui, oui.
Et c'était
parti
quoi
une semaine à Barcelone.
Ah, trop bien! Jolie ville, hein, Barcelone.
Très jolie.
Vous êtes déjà allé à Barcelone, Jean-Baptiste?
Non, jamais.
Ah, j'aimerais bien vous voir à Barcelone, vous brindez avec l'accent espagnol.
Ah, j'aimerais bien me voir aussi à Barcelone.
Ouais. Vous avez fait quoi comme visite? Est-ce que vous avez visité le parc Güell?
Non, pas trop. J'étais avec ma fille, on est allé voir l'aquarium, qui est très joli.
Oui, c'est très joli l'aquarium. Ah, il y a de magnifiques choses à visiter à Barcelone. Vous avez eu le beau temps, j'imagine.
Oui, oui.
D'accord. Alors, vous allez tester un nouveau jeu qui s'intitule « Qui suis-je ?». Il faudra, alors ça va aller assez vite, et il faudra trouver la personne. Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Je suis une reine antique au cinéma. Elizabeth Taylor m'a incarnée et Kamel Wally a créé en 2008 une comédie musicale. Mon nez a fait couler beaucoup d'encre et pour entretenir ma beauté et ma jeunesse, je prenais des bains de lait d'anis. Qui suis-je?
Cléopâtre.
Waouh, bravo.
Plein dans le mille. Hein.
Ah ouais, bravo, fastoche. C'est quoi qui vous a mis le plus la puce à l'oreille?
Avec le nez un peu.
Ouais, voilà, parce que on dit que le nez de Cléopâtre a changé la face du monde. Eh bien, bravo Michael, vous
Merci
remportez
beaucoup.
Une carte Landy de 20 francs. Vous allez rester avec nous hors antenne. Et puis, on vous souhaite une bonne suite de dimanche. À bientôt.
Merci, bon week-end.
Merci, au revoir.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Et Jean-Baptiste Legrand est toujours l'invité de l'ère de jeu. Alors, vous avez vécu beaucoup d'expériences hein, au Laos et dans quelques pays que vous avez visités dans ces pays asiatiques. Et là, je pense que c'est quelque chose d'unique que vous avez vécu, car on vous voit habillé avec l'habit traditionnel des moines.
Oui, alors, sur cette photo, c'était à l'occasion, malheureusement, de funérailles. Mais je suis rentré au temple en tant que novice.
Mais on ne vous reconnaît pas.
Il n'y a pas si de coiffeur, là.
Oui. Alors expliquez-nous. En fait, c'est cette personne qui m'a accueilli au Laos dès le départ, celle avec qui j'ai partagé sa maison, ses traditions, passé du temps avec sa famille. C'est cette personne que j'appelais oncle, qu'on se considérait vraiment comme la famille. Il avait lui-même été moine et on a toujours discuté ensemble du fait qu'il m'aiderait à rentrer au temple pendant mon voyage.
Oui, parce que où vous êtes, pardon, à Luang Prabang, c'est pas facile à dire, il y a beaucoup de temples.
Oui, alors c'était la capitale du Laos, mais ça reste maintenant aujourd'hui la capitale spirituelle du Laos. La capitale économique est descendue à Vientiane, donc la capitale actuelle. Mais là-bas, sur Luang Prabang, on compte 43 temples sur une concentration, sur une petite ville, peut-être la moitié du Loc.
Ça a été un honneur que de porter cette tenue.
Voilà, c'est une promesse qu'il m'avait faite de me faire rentrer au temple. Et puis, ça s'est fait. Ça a été très intense pour moi ainsi que pour d'autres personnes qui le connaissaient, pour sa famille. On est tous descendus à son village et puis sa famille est venue me voir. Ils m'ont dit, Jean-Baptiste, tu faisais partie de la famille Est-ce que tu veux te joindre à nous, membres de la famille? On doit rentrer au temple pour lui, pour aider son âme à s'élever, etc. Ils m'ont demandé de participer à la cérémonie. Alors, je leur ai dit oui. Et ils sont arrivés avec la tondeuse. Ils m'ont enlevé les sourcils, les cheveux, les habiller entièrement.
Mais pourquoi ce rituel?
Parce que quand on rentre au temple, on doit se débarrasser de tous ses biens. On doit vraiment se libérer, s'alléger. Donc, on rentre au temple dévêtu.
Pas de bijoux?
Non, rien du tout. Voilà. Donc, on a été face au vénérable du temple qui nous a donné des chants en sanskrit, en moine, qu'on a dû lui répéter. Et puis, ça a été notre passation de personne normale à novice. On n'était pas encore moine. Moine, il faut 2 ans minimum pour devenir moine. Donc, on est devenu novice pendant quelques temps. C'était une expérience incroyable. C'était vague de frissons sur vague de frissons pendant la cérémonie.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
On revient dans le Laos avec Jean-Baptiste qui est notre invité du jour.
Effectivement, alors Jean-Baptiste, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, alors c'est vrai que c'est très verdoyant, il y a des montagnes et tout. Et il faut faire quand même attention, on ne peut pas aller se balader comme ça, comme on veut.
Alors, c'est vrai que quand on voyage sur le Laos ou bien dans la région, Laos, Vietnam, il faut faire très attention, c'est à emprunter des chemins qui sont déjà balisés ou bien partir avec un guide, puisque l'histoire du Laos, c'est un pays qui a été le plus bombardé au monde et on a encore de nos jours énormément d'obus, de mines qui sont encore en latence, qui attendent d'exploser.
C'était l'Amérique qui avait mené la guerre au Laos, enfin dans cette région du Siem.
Oui, c'est ça. Alors les Américains avaient quand même des bases sur le Laos et ils avaient pour ordre, avant d'atterrir, de reposer leurs avions, de vider les cargaisons, donc malheureusement sur le Laos. Donc, c'est des tonnes et des tonnes de bombes qui ont été déchargées quotidiennement. Ça a été, je ne sais plus combien de tonnes par habitant qui ont été bombardées. Ouais.
Et puis et là, il y a quand même Barack Obama qui a fait quelque chose.
Oui, alors ça a été le premier président américain à passer au Laos pour présenter déjà ses excuses. Pour aussi faire bonne figure, pour dire, nous... on n'oublie pas ce qu'on a fait chez vous. Et il a débloqué des fonds pour des associations, pour des organismes, pour pouvoir aider à récupérer ces bombes.
Est-ce que ça a été fait?
Non, malheureusement.
Pourquoi?
De ce que j'ai entendu dire, le président suivant aurait annulé cette aide.
Ah, Donald. Ouais. Ici, on vous voit, Jean-Baptiste, avec des personnes...
Alors, celle-ci, c'est au Cambodge. Celle-ci, puis la photo précédente avec tous les élèves. C'est quand je suis descendu au Cambodge pour faire une retraite Vipassana. Peut-être certains connaissent ces retraites. C'est des retraites où on doit vraiment retourner dans ses vies antérieures, se nettoyer. C'est une introspection. Je devais aller faire ce cours là-bas. Et je me suis retrouvé sans argent. Je me suis fait voler par un tuk-tuk driver, un chauffeur de tuk-tuk, en qui j'avais un petit peu trop confiance. Pendant ma visite des temples d'Angkor, j'ai laissé mon kawaii avec mon argent dans le tuk-tuk.
Mais ça se fait pas. Hein.
Du coup, il n'y avait plus que le kawaii quand vous êtes revenu.
Il n'y avait plus que le kawaii, mais il me l'a rendu en main propre avec un grand sourire. Après, j'ai compris pourquoi. Ce grand sourire. Et je me suis retrouvé, sans argent à voyager au Cambodge. J'ai rencontré des personnes qui m'ont donné un toit, un garage. C'était suffisant à l'époque, un garage avec un lit. Et on m'a dit, j'ai une école associative. Tu peux venir nous aider, enseigner. Et puis, on peut te donner, on n'a pas beaucoup d'argent, on peut te donner de quoi payer le bus pour retourner au Laos. J'ai pas voulu recevoir d'aide financière de la famille ni des amis. J'ai voulu me débrouiller seul. Donc ça m'a suffi ce billet de bus. C'est dans cette école que j'ai enseigné le français, j'ai enseigné l'anglais. Puis des moines venaient aussi suivre des cours. Et ils m'ont invité à aller enseigner dans le temple directement.
Et c'est vrai que les temples là-bas, ils sont assez impressionnants. Est-ce qu'on peut les visiter facilement?
Alors, tous les temples se visitent. Simplement, il y a quand même des horaires à respecter. Parce qu'ils ont leurs cérémonies, ils ont leurs rituels, leurs chants. Ils ont leur vie qui tourne autour du temple. Chaque moine, chaque novice représente le Bouddha. C'est quelque chose d'assez important pour eux. Ils ont tout un rituel quotidien. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire attention quand il y a des cérémonies, quand il y a l'aumône le matin, à ne pas bloquer leur chemin. Et il faut éviter de les prendre en photo constamment. C'est un petit peu le mauvais côté du tourisme, c'est que des fois, les gens oublient qu'il y a une vie privée, puis des règles à respecter.
Et là, ce sont des temples qui viennent de la ville.
C'est le Wat Siangtong, c'est le temple Siangtong. C'est un des temples les plus anciens de la ville. C'est celui qui abrite aussi le Praman. C'est une statue de Bouddha qui a été offerte par le roi Khmer. Il y a beaucoup d'histoires derrière, mais une petite anecdote. Chaque année, ils retirent les statues de Bouddha des temples, la plus importante, pour les nettoyer, pour leur faire la cérémonie de l'eau. Et cette année-là, ils l'ont retirée un jour avant, au mauvais moment. Et alors, on a eu une grosse tempête d'un coup, et la foudre a tapé le temple et a cassé une des vieilles stupas du temple. J'étais là, on l'a vu, les autorités sont venues sur place, tout le monde est venu faire des offrandes. Ils ont remis la statue, ils l'ont sortie à la bonne lune.
Comme quoi,
hein. Ouais, il y a un ressenti, hein, dans ce temps, ouais. C'est impressionnant.
L'air de jeu, jusqu'à midi, avec Claire et Florian.
Et Jean-Baptiste, hein, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et puis on a aussi
Liane de Travers.
Qui nous a envoyé une jolie photo de la maison dans la prairie.
Bonjour Liane, comment allez-vous?
Bonjour, bien et vous?
Oui, alors décrivez-nous la photo que vous avez envoyée.
En fait, c'est un monument en pierre que j'ai photographié en Islande. Et en fait, ça représente, je crois, un héros mythologique, quelque chose comme ça. Et ça se trouve à Parnassapi.
Jean-Baptiste, dites à Liane, pourquoi vous avez eu le coup de cœur pour cette photo?
J'adore ces constructions anciennes qui ont été faites à la main et puis qui durent dans le temps. J'adore tout ce qui est monuments, ces gros monuments en pierre, les Stonehenge, l'histoire à travers ces constructions comme ça. Et quand je vois ces vieilles pierres superposées les unes aux autres et qui ont l'air de rester, je trouve ça joli.
Eh bien, bravo Liane, vous remportez la carte cadeau Landy de 20 francs. C'était en quelle année que vous êtes allée là-bas?
C'était il y a 2 mois.
Ah, mais dis donc, il fait beau en plus.
Alors là, c'est un coup de bol, parce qu'on a vraiment une semaine, les 9 jours, vraiment pas terrible. Mais c'était sur 4 semaines, il paraît que c'était une des semaines les plus moches.
Ah, d'accord.
qu'est-ce que vous avez le plus apprécié en Islande?
Les paysages, la nourriture, les gens, enfin, vraiment tout, vraiment. Je conseille à toute personne d'y aller.
C'est quoi la spécialité culinaire phare de l'Islande?
Écoutez, il faut beaucoup de cabillaud, il y a beaucoup de poissons, et puis on a pu déguster du requin, principalement ma maman.
Oh!
Et puis non, c'était vraiment, vraiment génial. Tout était fantastique.
Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Islande, Jean-Baptiste?
Non, mais c'est ma prochaine destination.
Si jamais, Liane, vous pourrez lui donner des tuyaux.
Avec grand plaisir.
Voilà.
Il paraît qu'ils ont un fameux saumon séché, là, qui sont pas très bons.
Mais en fait, j'ai mangé, je crois, ça. Je sais pas si c'était du saumon, plutôt du cabillaud séché. Et puis, le mâche comme du chewing-gum, un peu.
Oh, bonjour l'odeur. Vous avez une haleine de poney, après.
Ouais.
Ouais. Faut pas rencontrer quelqu'un, voilà. Si vous avez une ouverture, non, ça gâche tout. Hein.
Ouais, sauf si c'est un Islandais, il a l'habitude. Merci Liane d'avoir joué avec nous ce matin. Bon dimanche.
Bon dimanche, merci, bonne suite de journée. À bientôt, merci, au revoir, beaucoup, merci.
Au revoir.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
En tout cas, ça en fait du bien. On a bien voyagé hein, ce matin au Laos. On en a appris un peu plus sur ce pays. On imagine un petit peu votre ressenti, ce que vous avez vécu. Maintenant, quand vous êtes revenu en Europe, on se sent bien hein, parce qu'on a emmagasiné de l'énergie d'ailleurs.
C'est pas évident. On se sent bien parce qu'on peut renouer contact avec la famille. On peut manger des choses que l'on avait
oublié.
Pas l'occasion de manger. On peut redécouvrir des saveurs, redécouvrir nos paysages. Et puis, on voit les choses différemment, avec un œil différent. Et après, je suis partagé maintenant parce qu'entre-temps, j'ai rencontré ma femme, on a des enfants. Je suis partagé entre ici et là-bas.
Et votre femme, est-ce qu'elle apprécie la Suisse, puisqu'elle est laotienne?
Alors, ma plus grosse question, ma plus grosse crainte, c'était qu'elle vienne en Suisse et qu'elle n'apprécie pas le fromage. Elle aime bien, elle apprécie bien, elle s'adapte bien.
Dans pas longtemps, elle va cuisiner la fondue, j'en suis sûr.
Elle s'y met. Ouais, on a de très bonnes fondues par chez nous, là-bas, dans la vallée. C'est un avantage pour elle de venir ici pour découvrir un petit peu la culture européenne, mais c'est aussi bien pour nos enfants. On est quand même au Locle là, et c'est une région assez verte, assez naturelle. On a encore des animaux sauvages qui se baladent, on a encore toutes ces petites rivières, ces ciels étoilés. Il y a aussi un bon système de santé comparé à l'Asie. Donc, c'est beaucoup d'avantages qui font qu'on s'y sent bien.
Voilà, vous allez rester maintenant quelques années en Suisse. Vous continuez d'exercer votre métier de cuisinier?
Oui, alors je suis revenu pour donner un coup de main à ma maman qui s'est installée au Locle et qui a décidé de reprendre la gestion d'une crêperie au Locle. Je suis venu pour lui donner un coup de main avec ma femme. On a mis les mains à la pâte et nous sommes tous les deux en cuisine et ma maman en salle.
Une belle histoire de famille en tout cas. Merci de nous avoir raconté votre périple du côté du Laos et dans certains pays asiatiques.